Ça jase à Lyon avec Alexis André.
Bonjour à tous, pour ce nouveau numéro de Ça jase à Lyon, je reçois ce matin Bernard Bolz, le fondateur de Prison Insider. Bonjour Bernard Bolz.
Bonjour.
Après avoir passé le cap du financement participatif, Prison Insider va voir le jour à Lyon au printemps. C'est un site d'information partisan sur les prisons du monde entier. Quel constat vous avez fait pour vous lancer dans cette aventure ?
C'est un constat qui est ancien.
Oui.
Qui démarre avec la création dans les années 90 à Lyon de l'Observatoire international des prisons. Donc j'ai passé une bonne partie de ma vie à travailler cet environnement-là, ou cet enfermement-là. Et il se trouve que l'OIP, dans son secrétariat international, s'est arrêté à la fin des années 90.
Mmh.
Il n'y a plus de travaux collectifs sur l'ensemble des prisons, donc c'était retrouver finalement cette dimension-là.
Site partisan donc, mais aussi journalistique, ça va se traduire par des enquêtes, des interviews, des dossiers ?
Oui, il faut produire une information, j'allais dire, en continu sur l'état des prisons, une information ponctuelle qui prendra la forme de notice pays, où on décrira les conditions pour un pays donné, celui qu'on choisira d'aller voir.
Oui.
Et puis, effectivement, nous allons travailler de façon journalistique en faisant de l'investigation, parce qu'il y a des choses à dire autour de la question de l'enfermement. Par exemple, prendre un exemple, on aimerait pouvoir travailler sur la façon dont certains États commencent à transférer leurs détenus pour un hébergement dans un pays limitrophe. On a commencé à voir ça en Europe. Pourquoi construit-on aujourd'hui en Afrique des prisons clés en main conçues dans les pays occidentaux ? Comment le Nord est en train de transférer sa façon de punir dans des pays qui n'en réclament pas forcément autant ? Il y a des enjeux considérables là-derrière. Ça nous intéresse de les questionner.
Alors, vous êtes en train de chercher des sources un peu dans tous les pays du monde pour garnir votre base de données et puis pour trouver des idées de reportage. Vous espérez également faire participer les détenus qui pourraient se filmer avec leur téléphone portable dans les cellules. On a vu qu'à Béziers, un détenu avait écopé de 6 mois de prison supplémentaire fin février pour avoir utilisé l'application Periscope qui lui permettait de faire une vidéo en live. Ça n'empêchera personne de recommencer pour Prison Insider ?
Oui, bon, il n'est pas certain que les prisonniers souhaitent nous faire partager leurs vidéos, mais peut-être certains le feront spontanément.
Oui.
Encore une fois, on n'est pas à l'échelle de la France, on est à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, ce sont des moyens contemporains de communiquer et les images existent. Ce qu'on imagine, c'est des petits spots d'une minute qui soient des petits témoignages sur des conditions de détention, sur des lieux qui ne sont pas montrés et dont on a tout intérêt à cacher la forme et à cacher aussi les personnes qui les occupent pour faire croire ou donner à penser que ces personnes sont tellement différentes de nous, alors que c'est la personne prisonnière, c'est nous à un moment donné. C'est un passage, le temps moyen en France, par exemple, du temps passé en prison, c'est un peu plus de 10 mois.
Oui.
Pour les 90 000 personnes qui rentrent chaque année en prison. Les gens, ils passent pas leur vie. Tout le monde n'a pas tué son père et sa mère. Donc, il y a énormément de peines assez courtes. C'est les gens qui, à un moment donné, ont commis une infraction qui leur vaut ce passage par la case prison. Mais leur redonner un visage, leur donner une parole, les nommer, s'adresser à eux, c'est en quelque sorte retrouver de l'humanité.
L'un des commandements du journaliste, c'est de vérifier ces informations. Quand vous recevez une vidéo, une photo d'une prison à l'autre bout du monde, comment être sûr de son authenticité ?
La question se posera...
En
temps voulu. On a publié avec l'OIP pendant 6 ans un rapport annuel sur des choses quand même gravissimes qui se passaient. Et on a dénoncé des situations inextricables. Je ne crois pas beaucoup à la volonté de manipuler ou aux mauvaises intentions. Mmh. Mais on vérifie nos sources, on vérifie nos informations. C'est-à-dire avant de publier, si on devait dire que... Je sais pas, moi, 3 personnels pénitentiaires ont tué un détenu, on va pas l'écrire comme ça parce qu'on l'aurait entendu dans un couloir.
Ouais.
C'est des choses extrêmement graves, heureusement rarissimes sous nos contrées. Mais si quelque chose devait arriver ou être porté à notre connaissance, effectivement, il y a toutes sortes de façons de recouper ces informations pour s'en assurer.
Si on prend un point de vue très local ces dernières années, dans le Rhône, on a eu plusieurs ressortissants qui ont été emprisonnés à l'étranger. Il y a eu Aurore Grosquassy qui a été emprisonnée à l'île Maurice. On a eu aussi Pascal Forêt en République Dominicaine dans le cadre de l'affaire Air Cocaïne. Dans ces pays lointains où l'on veut souvent faire un exemple avec les étrangers et les Français, quel rôle peut jouer Prison Insider ?
Une des entrées sur cette plateforme digitale, qui sera d'ailleurs en libre accès, sera en cas d'arrestation. Vous avez 2200 Français détenus à l'étranger. Ma source sont celles du Canard Enchaîné, mais je le crois fiable, c'est récent. 2200 Français détenus à l'étranger. Ce sont autant de familles, mais vous pouvez, il y a les Anglais détenus à l'étranger, les Espagnols détenus à l'étranger, les Américains détenus, les Vénézuéliens détenus dans un autre pays. Je veux dire, cette valse, il y a 10 350 000 détenus dans le monde. Dans cette grande valse de la détention, tout le monde peut avoir un moment ou un autre à connaître un proche, un ami qui serait détenu dans un autre pays. Alors, en cas d'arrestation, ce que je veux savoir, c'est d'abord quelles sont ses conditions de détention. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce qu'il va souffrir beaucoup? Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il est soigné? Je vais vouloir l'accompagner de plusieurs façons. Je voudrais lui envoyer de l'argent. Je voudrais le prévenir. Je voudrais établir, oui, effectivement, un lien avec lui. L'assister d'une façon ou d'une autre, faire en sorte qu'il soit visité. Et donc, notre plateforme permettra d'accéder à ces informations. De même que je pourrais connaître l'association sérieuse dans un pays donné qui pourra aller le visiter, me donner des informations. Et puis, je pourrais préparer éventuellement un déplacement pour me rendre dans le pays et savoir ce que je dois prévoir, si je vais pouvoir rentrer dans l'établissement, quelles conditions d'accès me seront faites, etc. etc.
Vous évoquez donc un accès gratuit pour cette information. Ça veut dire que forcément, le reste va être payant. Sur le modèle économique, donc, vous avez lancé une plateforme de financement participatif que vous avez clos. Vous avez reçu des soutiens de la part du Barreau de Lyon, de la Fondation de France. Pour garder son indépendance, il faut présenter du contenu payant ?
Oui, l'information a un coût. Et donc, nous avons fait le choix d'un site accessible gratuitement pour les personnes en situation, on va dire, de détresse. Mm-hmm. Et un choix payant pour tous les professionnels qui ont besoin d'avoir accès à l'information. Ce sont des chercheurs, les avocats, oui, bien évidemment, les travailleurs sociaux, les journalistes, les étudiants en droit, les instituts des droits de l'homme, des médiathèques. Enfin, on pourra s'abonner soit individuellement, soit en tant qu'institution, à un prix pour un individu de 30 euros par an, c'est-à-dire une somme qui est vraiment démocratique de notre point de vue, même si 30 euros pour certains pays, c'est une somme extrêmement importante, mais on réglera le problème autrement à ce moment-là. Et il nous faut 17 000 personnes dans le monde qui paye 30 euros pour assurer la viabilité de notre plateforme.
Et puis une dernière question plus globale, puisqu'on a à peine gratté le côté partisan de votre site. Vous lancez des chiffres qui sont très lourds, hein, qu'on connaît parfois. Plus de 10 millions de personnes incarcérées dans le monde. Un taux d'occupation des prisons au Bénin qui est de 363%. Est-ce qu'il existe d'autres solutions aujourd'hui à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale, pour réduire ces nombres tout en garantissant un respect de la loi?
Nous, on en est convaincus, mais ce n'est pas nous à Prison Insider, c'est l'ensemble des personnes qui travaillent sur la question de l'enfermement. Oui. Aujourd'hui, sont convaincus que la prison est souvent une mauvaise solution. C'est-à-dire qu'on ne pense sanction que si on pense prison. Or, il faut cesser avec ça. La prison abîme. Moi, je ne suis pas un partisan de la suppression de la prison. Je pense qu'à un moment donné, la prison est aussi un outil de la démocratie, donc elle doit exister. Mais pour un nombre restreint de personnes qu'on identifie et qui sont surtout dangereuses pour autrui.
Pour des crimes précis.
Des infractions, même pas forcément des crimes, pour des infractions très précises. Et parce que, effectivement, la sécurité d'autrui, physique, serait directement menacée. Effectivement, à un moment donné, il faut pouvoir contenir des gens. C'est un fait. Enfin, en tout cas, tout le monde ne partage pas mon point de vue. Dans nos rangs, hein, il y a des gens qui sont vraiment abolitionnistes. Ce n'est pas mon cas. Et donc, on peut, par contre, baisser le nombre des personnes incarcérées. Il y a des personnes qui n'ont rien à faire en prison, on le sait, qui sont d'une vulnérabilité ou d'une fragilité totale. En tant que contrôleur pendant plusieurs années des lieux de privation de liberté, j'ai appartenu à cette équipe de façon contemporaine, à temps plein. Je me suis rendu dans énormément de, bien sûr, des dizaines et des dizaines et des dizaines de prisons en France, et puis en Guyane, et puis également en Nouvelle-Calédonie. Oui. On séjourne pendant plusieurs jours, on rentre au quartier disciplinaire, on a accès absolument à tout. J'ai rencontré énormément de gens, comme exactement mes collègues, et on rencontre des situations absolument pathétiques. On sait bien que la prison est pour beaucoup le produit de la pauvreté, d'une certaine forme de misère. Vous avez des gens dont on sait que la prison ne les guérira de rien, mais qui ne sont pas non plus véritablement des gens... c'est le produit de la misère. Et il y aurait une autre façon de dépenser son argent que de construire des cellules qui coûtent d'ailleurs fort cher à entretenir. C'est un mode de sanction qui est très onéreux pour un résultat assez piètre. Ce que demandent les gens, c'est de la considération, c'est de la formation, c'est essayer de s'extraire d'une situation dans laquelle ils sont. Nous venons de travailler là sur un spectacle avec des gens qui ont fait 20, 25, 35 ans de prison.
Oui.
Ce spectacle sera joué à la Maison des Métallos la semaine prochaine à Paris pendant 5 jours d'affilée. Du 12 au 17, c'est absolument magnifique, ce travail est magnifique. Je l'ai vu à Marseille Il est écrit à Marseille, les Subsistances à Lyon sont coproductrices. Et c'est un metteur en scène, Didier Ruiz, qui a embarqué avec lui des personnes qui ont fait ces très longs séjours en prison, y compris d'ailleurs l'épouse d'un de ces détenus, ex-détenus, qui l'a visité pendant des années, qui sont sur le plateau et qui racontent. Alors, ce n'est pas du théâtre, ils ne récitent pas, ils n'apprennent pas par cœur, mais ils savent à quel moment ils doivent intervenir et pour dire quoi, dans une certaine improvisation de leurs propos. Mais on passe en revue un certain nombre de considérations sur la prison. Et c'est extrêmement émouvant, c'est extrêmement touchant. Et ces visages de personnes qui sont des visages défendus, enfin, comme le nom du film de Catherine Rechat, bah, dès lors qu'on s'adresse à des personnes, qu'on les voit, et bien, y a tout un pan de l'inhumanité qui tombe. Et on s'aperçoit que c'est des gens, c'est des parcours... chaotique, mais c'est des enfants souvent brisés par des coups, des violences, soit intrafamiliales, soit dans des placements d'institutions qui ont été complètement malmenantes, enfin, qui ont été terribles.
Oui.
C'est des enchaînements. Je ne dis pas que ça ne puisse pas arriver à des gens de dérailler en appartenant aux milieux les plus favorisés, mais c'est quand même, on a plus de chances d'y échapper, quoi.
Merci Bernard Bols. Notre entretien est à retrouver en intégralité sur lyonmag.com.
Merci.
Ça jase à Lyon sur Jazz Radio en partenariat avec lyonmag.com.